France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De l'anti-atlas au Rif. Les sultans s'opposent à la colonisation du sultan El-Iba que nous allons croiser dans le sud avec la figure d'Abdelkrim dans le Rif. Comment se construit la résistance à la présence française et espagnole au Maroc? Résister au protectorat.
Allô, allô, ici Tanger.
La France confie à la pacification et l'organisation du Maroc au général Lyautey. Il réprima vigoureusement les révoltes marocaines, soumit les grands caïds du sud et assura la liaison avec le Maroc oriental par la prise de Taza. En 1934, les dernières zones de dissidence furent soumises.
Ce pays pauvre, c'est en somme une région dans laquelle l'autorité du sultan est assez mal assurée. C'est une région qui se gouverne très largement elle-même et qui, de temps en temps, fait allégeance au sultan. C'est donc une région dans laquelle les sentiments de révolte étaient très largement spontanés.
Rachid Agrour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous êtes spécialiste de l'histoire du Maghreb colonial, du mouvement Ibis. Il faut tout de suite nous expliquer ce qu'est ce nom. Ibis, je le dis, ça s'écrit H-I-B-I-S-T-E. C'est en lien avec quel nom?
Alors en fait, c'est le nom, en fait, ça dérive du nom du fondateur, Moulay Ahmed El-Iba. Donc El-Iba, donc Ibis. Donc c'est lui qui a mené en fait une offensive de milliers d'hommes dans le sud marocain pour se proclamer sultan à la place du sultan, on va dire. Suite à la signature du traité du protectorat par Moulay Hafid. Donc, par cette signature, donc, les musulmans, enfin ceux du Sud en tout cas, ont déclaré que le sultan n'était plus apte à diriger les musulmans. Et donc, un nouveau sultan s'est proclamé pour bouter les chrétiens hors du Maroc.
En 1912, il signait ce protectorat. Expliquez-nous un peu la situation du Maroc en 1912, parce que il y a un sultan très bien, vous utilisez ce nom de Moulay, M-O-U-L-A-Y. Faut nous préciser un peu, parce que on sent que le pouvoir est divisé au Maroc à ce moment-là. La figure du sultan peut être contestée.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour en revenir sur le terme de Moulay, en fait, le terme de Moulay désigne en fait tous les descendants du prophète Mahomet. Donc, c'est ce qu'on appelle le shérifisme. Donc, le sultan doit être, depuis le XVIe siècle au Maroc, pour légitimer le pouvoir, l'autorité, il doit être shérif, il doit être descendant du prophète. Donc, juste à la veille du protectorat, le sultan est assez affaibli. Tout d'abord, pour commencer, le Maroc est habituellement divisé en deux pays. Ce qu'on appelle les pays de gouvernance et ce qu'on appelle où les tribus acceptent de payer l'impôt. Et les pays d'anarchie, où justement les tribus refusent de payer cet impôt au sultan. Par contre, il y a une certaine unité, malgré cette division, dans les deux pays. Tous les musulmans reconnaissent le statut de commandeur des croyants au sultan.
Oui, parce que il y a de cela aussi, hein. Il y a de la religion et du politique. C'est-à-dire que dans des territoires où il y a le refus de payer l'impôt, il y a malgré tout la reconnaissance du sultan, comment on le dirait, comme imam, en tout cas comme représentant ou descendant ou celui qui va conduire les croyants. Mais ça pose ici des problèmes complexes, parce que qui est ce sultan? Alors, il n'est pas reconnu comme le chef politique dans certains territoires, mais alors, ils reconnaissent un chef particulier?
Non, en fait, dans ces pays dits d'anarchie, en fait, ce sont les communautés villageoises qui gèrent en fait la vie courante, la vie politique, tout simplement.
Mais le défi, en fait, pour le sultan, c'est d'obtenir l'adhésion de l'ensemble du territoire. Nous sommes en 1912, nous l'avons dit, il y a ces protectorats. Ça veut dire que au moment où le sultan signe avec la France, puis il y a le protectorat avec l'Espagne, bah, une forme de soumission, ça ne passe pas partout au Maroc.
Exactement. D'autant plus que le sultan qui signe ce protectorat, Moulay Hafid, à l'époque, a déjà renversé son propre frère, Moulay Aziz, suite à l'intervention à l'occupation de l'arrière-pays de Casablanca par les troupes françaises en 1907. Donc ce Moulay Hafid s'est proclamé sultan du djihad pour renverser son frère, mais 4 ans plus tard, en 1912, donc, il est amené à signer le traité du protectorat.
Et là, ça ne se passe pas très bien avec un personnage, vous nous l'avez évoqué tout de suite pour commencer, au moment de nous définir ce mot ibiste, El-Iba. D'où vient-il? Qui est-il?
Alors, El-Iba, donc, c'est un homme de l'Ouest saharien. Donc il est le fils d'un grand homme de confrérie, un thaumaturge, un peu un faiseur du miracle, fondateur de Smara, cher à Michel Vieuchange. Donc c'est le fameux Ma'el Enin. Donc ce Ma'el Enin, donc il s'érige lui comme défenseur du territoire des musulmans face à l'avancée des troupes coloniales françaises depuis les rives du Sénégal. D'accord. Il est donc il y a deux parties en fait. Ma'el Enin a un frère qui s'appelle Saad Bou. Donc il y a vraiment deux tendances. Donc le Saad Bou lui reconnaît le fait que le principal pour une bonne gouvernance, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane, c'est que elle maintienne la paix et l'ordre. Et surtout qu'elle préserve la religion. Donc Saad Bou, lui, collabore totalement avec les troupes coloniales françaises. Contrairement donc à Ma'el Enin, qui lui a une toute autre vue. Donc pour lui, face à l'intrusion coloniale, donc c'est soit le combat, le djihad, soit la fuite vers des territoires régis par une puissance musulmane.
Rachid Agrour, il faut bien préciser que ce sont des gens lettrés. Nous ne sommes pas ici dans les combattants, parce que quand on parle de résistance, on imagine des guerriers qui vont prendre les armes et qui vont s'opposer aux troupes qui arrivent. C'est pas comme ça que ça se construit, c'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent, qui disent et qui écrivent.
Tout à fait, tout à fait. Dans ce combat, donc justement, c'est un combat de leader contre leader. Donc le combat entre ces deux frères, Ma'el Enin et Saad Bou. Par exemple, Ma'el Enin est vraiment un jusqu'au boutiste parce qu'il va jusqu'à rendre licite le pillage des tribus soumises aux Français.
Ah oui, bah d'un seul coup, nous sentons les divisions venir. Le fils de Ma'el Enin, c'est celui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est Moulay Hamed El Iba. Enfin, je dis Moulay, mais à partir de quel moment il l'est? C'est-à-dire, il y a une succession qui se passe, c'est un homme qui grandit au Maroc, parce que vu que son père est en opposition avec les troupes coloniales, j'imagine que c'est une vie où l'on se cache, voire où l'on s'exile.
Non, en fait, comme c'est l'Ouest saharien, donc c'est dans une zone de nomadisme. Donc jusqu'en 1909, ils sont dans la région de Mauritanie, entre la Mauritanie et l'ex-Sahara espagnol, on va dire, où se trouve Smara. Donc ils nomadisent dans ces eaux-là, jusqu'en 1909 où la colonne Gouraud, donc venue du Sénégal, chasse Ma'el Enin vers le Maroc, vers Tiznit, où il se réfugie.
Voilà, si on regarde notre carte du Maroc en 1912, nous voyons bien ici au nord un protectorat espagnol, la ville de Tanger qui est une ville internationale, le protectorat français. Et au sud, il y a ces territoires espagnols. Aujourd'hui, c'est le Sahara occidental, pour le dire simplement. Mais pour des personnes comme Moulay Hamed El Iba, tout cela n'a pas de sens, au sens où... espagnol, français, c'est pas ça la question. Il s'oppose à toute forme de protectorat.
Tout à fait. Surtout qu'à l'époque, en 1912, il faut bien le rappeler, que la présence espagnole se réduit à ce qu'on appelle Villa Cisneros, la Dakhla d'aujourd'hui. Elle est juste sur ce point-là, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a aucune occupation, se fera beaucoup plus tard, en 1934.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est une histoire qui se construit à travers le temps. Et pour bien saisir comment cette histoire-là se met en place, il faut jeter un œil sur la situation du Maroc. Nous parlons de l'année 1912 parce que c'est l'année où est signé le protectorat, dans un contexte particulier.
Durant la période 1904-1911, l'équilibre européen fut modifié par l'affaiblissement de la Russie à la suite de sa défaite par le Japon. L'Allemagne en profita en intervenant deux fois au Maroc en 1905 et en 1911 par des épreuves de force. Mais à la conférence qui se tint à Algésiras de janvier à avril 1906, la France obtint à son tour la prépondérance de son influence, il est vrai dans des limites précises, notamment en matière de police, où elle ne put exercer son mandat que sur le littoral. La crise de xénophobie marocaine qui aboutit à des massacres d'Européens à Marrakech et à Casablanca l'amena à occuper Oujda puis Casablanca, enfin la Chaouia et les confins algéro-marocains. L'offensive française accrut l'hostilité des tribus envers Abdelaziz, qui fut détrôné et remplacé par Moulay Hafid. Rapidement déconsidéré par sa soumission aux chrétiens, le nouveau sultan fut assiégé dans Fès, ainsi que le corps diplomatique, et appela au secours. Une armée française occupa tour à tour Fès et Rabat en mai-juin 1911. La liquidation marocaine par entente économique entre les hommes d'affaires français et allemands n'ayant pas réussi, l'Allemagne voulut affirmer sa force en prenant un gage pour protester contre la violation par la France des engagements pris à Algésiras. Le 1er juillet, la canonnière Panthère jeta l'ancre à Agadir sous prétexte de maintenir l'ordre, comme l'avaient fait les Français à Fès. Mal soutenue par la Russie, mais fermement par l'Angleterre, la France put résister à la menace allemande, et le traité du 4 novembre 1911, négocié avec prudence et habileté par Joseph Caillaux, lui accorda le droit de préciser et d'étendre son contrôle sur le Maroc, moyennant des compensations territoriales au Congo. Le 30 mars 1912, elle conclut avec le Maroc un traité de protectorat et le 27 novembre, un accord avec l'Espagne qui fixa les zones respectives d'influence.
Dans cette archive de 1947, c'est l'émission Heure de culture française, nous entendons bien que le protectorat est signé en 1912, mais que c'est le fruit d'années de négociations, de regards et même de tensions. Le sultan, on l'a entendu, est déjà contesté. Rachid Agrour, la révolte commence dès le début du protectorat, et même avant d'ailleurs, dès que les Français arrivent. C'est peut-être qu'elle n'est pas organisée encore.
Oui, en fait, c'est une résistance qui est dispersée. Il y a plusieurs leaders régionaux dans le Moyen-Atlas, dans le sud marocain, un peu partout. Donc, justement, il y avait aussi les combattants de la Chaouia en 1907. Donc, depuis, on va dire en gros, depuis 1907, il y a des foyers de résistance un peu partout dans tout le Maroc.
Liba réussit à organiser une résistance beaucoup plus construite à partir du sud du Maroc. D'ailleurs, c'est quoi ce sud du Maroc? Parce que là aussi, comme vous nous avez expliqué, qu'il y a des territoires différents, notamment par rapport à l'impôt. Ceux qui acceptent de payer l'impôt, ceux qui n'acceptent pas de payer l'impôt, il y a les Berbères. On en est où dans ce sud marocain par rapport au pouvoir?
Alors le sud marocain, donc c'est la marge méridionale en fait du Maroc, qui est séparée par une frontière qui est imposante, qui peut poser souci parfois. C'est le massif du Haut Atlas. Donc vraiment, il y a une délimitation bien précise. C'est surtout une région semi-aride, qui est due à une pluviométrie irrégulière, où une bonne année agricole, on va dire en moyenne, à une bonne année agricole succède 3 ou 4 années de disette. Donc c'est un territoire aussi qui est interdit au commerce avec l'Europe. Le port d'Agadir, où se trouve donc cette région, est fermé depuis la fin du XVIIIe siècle au profit des Saouiras. Et c'est à Essaouira où se regroupent tous les commerçants européens, où toutes les importations du thé, du sucre, etc. se fait. Donc ça fait un renchérissement, donc ça a plus de 200 km au nord de la région. Donc tous les produits qui sont importés d'Europe sont beaucoup plus chers dans cette zone-là qu'ailleurs.
Oui, parce que ici, nous sommes quand même sur des histoires d'influence, de commerce, de villes sur lesquelles s'appuyer, et de population aussi. Elibar, quand il arrive, était-il destiné comme une logique à être accepté par des populations qui vont le suivre et qui vont se révolter contre les protectorats français et espagnols?
Alors non, pas du tout au tout départ. Donc il se réfugie à Tizi avec son père Maël Hénine. Maël Hénine décède en 1910 à Tizi, où il est enterré. Et pendant, on va dire, 2 ans, El Iba vivote un petit peu dans le sud marocain, où il n'est pas reconnu, où il n'a aucune autorité. Et c'est seulement au moment de la signature du protectorat qu'El Iba reprend un peu de sa superbe. Donc il reçoit des fonds, des armes d'un caïd du Haut Atlas, qui lui permet justement de s'affirmer comme leader des musulmans, comme leader du djihad.
Oui, parce qu'il y a cette volonté-là de mettre en place le djihad, c'est le sous-titre de votre ouvrage, hein, Rachid Agrour, le mouvement ibiste, djihad et résistance dans le sud marocain. 1910, ah ben ça on l'a bien compris, 1910 c'est la mort de El Hénine, c'est-à-dire le père d'El Iba, et là nous avons notre date de début. Mais le mot djihad est tellement utilisé depuis, a été déformé et souvent très mal compris. Ce djihad que vous évoquez dans ces années 10 du 20e siècle, c'est quoi en fait?
Alors, le djihad, en fait, pour reprendre la définition primaire, c'est en fait le djihad, c'est un effort, un grand effort, un ultime effort. Donc, pour des musulmans, donc l'ultime effort, le grand djihad, se passe dans les mosquées, c'est-à-dire en fait prier les cinq prières quotidiennes, faire le ramadan, etc. En fait, c'est tenir sa religion, donc respecter sa religion. Pour d'autres, par contre, c'est le djihad, c'est la défense du territoire où il y a une autorité musulmane contre toute incursion.
Mais voilà, c'est ça. Ça peut prendre toutes les formes. En fait, il peut y avoir un djihad du quotidien, simplement, exactement, avec la petite résistance. Exactement. Et puis, il y a la guerre sainte. Mais ça, c'est l'ultime combat. Avec un personnage comme El Iba, qui prend la succession de son père. Nous sommes en 1910, il est moulay. Très bien. Mais il y a toujours un sultan. Alors, le sultan qui est là, il s'y oppose avec le désir de le renverser.
Alors, bah, en 1912, donc quand le sultan s'est moulé Hafid, donc qui signe le traité de protectorat, il n'a pas plus beaucoup d'autorité en fait à ce moment-là. Donc, et comme je vous ai dit, donc dans cette marge méridionale, séparée par la frontière du Haut Atlas, les communications, les informations recirculent assez mal. Donc, on sait assez tardivement qu'un sultan s'est proclamé dans le sud. Donc, ce sultan donc a aussi mobilisé aussi des croyances eschatologiques qui existaient dans le sud. On parle d'un maître de l'heure, le Mahdi, qui doit restaurer la religion musulmane, signe de la fin des temps, et qui doit surgir justement de cette région du sud marocain, du Sousse.
Ouais, parce que ici se mêle toujours la religion. C'est complexe de s'opposer au sultan, même si il est complètement discrédité parce qu'il a signé notamment les protectorats, mais pas seulement. On l'entend bien. C'est sur une histoire longue. Le troisième des trois frères, etc. Il faut quand même faire une autre proposition. Lui-même, El Hiba, vu qu'il est moulay, descend du prophète. En tout cas, il y a la famille. Donc, il a ce qu'il faut pour se dire sultan et correspondre à des attentes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Rachid Agro, donc il est sultan à la place du sultan. Il renverse le sultan. Nous avons donc, à ce moment-là, en 1912, deux sultans au Maroc. Enfin, les deux se disent sultans.
Voilà, exactement, tout à fait. Et d'autant plus, donc, il mobilise donc ses croyances eschatologiques. Il promet aussi l'invulnérabilité à toutes ses troupes, en leur disant que les canons et les armes des Français ne seront d'aucun effet, puisqu'ils sont justement dans le juste combat pour la restauration de la religion musulmane.
Ah oui, alors là, ça devient, c'est vrai, sur une autre lecture, l'idée d'être invincible, ça c'est pas rien, et on ne s'étonne pas qu'en 1912, dans le Petit Journal, donc là nous sommes du côté français, dans le supplément du dimanche, il est question de ce soulèvement.
L'abdication de Moulay Hafid et la proclamation de son frère Moulay Youssef comme sultan a été, comme on s'y attendait, le signal d'une agitation nouvelle dans le sud du Maroc et jusqu'à Marrakech. L'inspirateur de ce mouvement est le prétendant qu'on appelle le sultan du sud, Hibba, fils de Malaynin. Ce Malaynin était un cheikh fameux qui, il y a une quinzaine d'années, agita profondément la Mauritanie jusqu'à Tombouctou et tout le sud du Maroc. Il avait fondé plusieurs ordres religieux fédérés sous sa haute obéissance, et il parcourait le pays constamment entouré d'une troupe de morts farouches qu'on appelait les hommes bleus. Or, le fils de Malaynin, El Hibba, celui qu'on appelle le sultan du sud, et qui agite en ce moment la région de Marrakech, aurait, paraît-il, hérité de l'influence de son père. Lui aussi passe pour avoir la baraka. Lui aussi se dit l'envoyé de Dieu. On conçoit par là tout ce que le général Lyautey et ses collaborateurs auront à vaincre de difficultés pour pacifier ces régions du sud marocain.
Olivier Martineau, dans le cours de l'histoire, qui lisait donc tranquillement le Petit Journal de septembre 1912 avec l'évocation de Lyautey, le représentant général de la France au Maroc, qui est chargé un peu de pacifier tout ça. Rachid Agro, quand on entend cet archive-là, on peut être étonné de la grande connaissance qu'il y a de ce qui se passe, parce que les noms sont justes, les mouvements sont justes, l'idée de la baraka, donc il est moulay, il a la baraka, on peut peut-être rappeler d'ailleurs ce qu'est la baraka, ce qui fait en fait qu'il peut être sultan.
La baraka, en fait, c'est donc c'est tout ce qui est, c'est une aura religieuse protectrice qui permet justement au sultan d'être respecté par tous les croyants, parce que donc ça serait un sacrilège de toucher à sa personne. Mais donc dans ce contexte particulier, donc Moulay Hafid qui signe le traité du protectorat, il abdique rapidement et c'est Moulay Youssef, un de ses frères, qui est proclamé sultan. Alors aux yeux de Moulay Hibba et de beaucoup de Marocains à ce moment-là, ce sultan Moulay Youssef est appelé tout simplement le sultan des Français. Ce n'est pas le vrai sultan.
Ouais, le sultan des Français, et on l'a entendu pour El Hibba, c'est le sultan du Sud, avec des territoires qui ont été évoqués dans ce journal en 1912. Nous sommes en Mauritanie, nous sommes vraiment au sud du Maroc, et Rachid Agro, vous nous avez expliqué qu'il y a aussi une forme particulière de se présenter liée à des idées proches de l'occultisme. Là, nous avons une différence quand même avec ce qui se passe au nord. Pour vous le dire, vous le demander autrement, est-ce que quand on est à Marrakech et quand on regarde ce qui se passe dans le sud, on dit mais ces gens-là ne fonctionnent pas exactement comme nous. On est tous marocains, mais la légitimité, elle est du côté de Marrakech.
Alors, oui, c'est ça exactement. Mais par contre, il y a la société marocaine d'alors est profondément religieuse. Et en fait, l'intrusion coloniale est vraiment vécue comme un cataclysme. Et donc, quand El-Iba mobilise les croyances eschatologiques de fin du monde, il y a beaucoup de croyants y adhèrent. Ils se disent, parce que c'est un déséquilibre des forces, c'est l'intrusion des chrétiens qui prennent le pouvoir sur une société qui était régie par l'autorité musulmane depuis des siècles.
Et puis, ils ont l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie quelques années plus tôt, en 1880, le protectorat, et plus encore avec ce qui s'est passé en Algérie depuis 1830, et ces massacres, hein, les uns après les autres. On sait combien la colonisation française de l'Algérie a produit des massacres terrifiants. J'imagine que dans ce que vous nous évoquez là, parce que nous sommes avec des nomades qui circulent, qui sont en contact, il y a l'idée qu'il ne faudrait pas faire au Maroc comme ce qu'ont connu les Algériens, les Algériennes, c'est-à-dire des massacres les uns après les autres. Il faut savoir résister pour ne pas subir une colonisation féroce.
Oui, en fait, à cette époque-là, en 1912, donc les informations sur les massacres ont bien été oubliées depuis. Les pro-coloniaux, on va dire, donc se mettent en avant justement la paix et la prospérité dans la colonie algérienne. Par contre, d'autres mettent en avant le fait que les Algériens, à leurs yeux, sont de moins en moins musulmans. Il y a des églises qui sont construites un peu partout. C'est vraiment une vision vraiment très religieuse, en fait.
Oui, c'est important de le souligner parce qu'on comprend pourquoi le sultan du Sud, El-Iba, peut attirer auprès de lui... attirer qui, justement? Parce que vous nous dites qu'il vient du Sud, très bien. Et puis, il a quand même cette force avec le fait qu'il soit descendant de la famille du prophète, le fait qu'il ait la baraka. Mais est-ce que ça suffit pour attirer des gens autour de lui? Est-ce que c'est le Sud qui l'accompagne vers Marrakech? Ou alors, est-ce que partout au Maroc, on va voir des gens qui vont se dire voilà le sultan qu'il nous faut, celui qui va chasser les Français et les Espagnols?
Alors, au tout début, c'est seulement les gens du Sud. C'est seulement une fois qu'il aura fait l'exploit de prendre la grande cité de Marrakech, qu'à ce moment-là, que d'autres caïds, d'autres régions, essayeront de prendre attache avec lui et le proclameront bien plus au nord de Marrakech comme leur sultan. Mais au tout départ, c'est seulement vraiment les habitants de ce sud, du Sousse marocain, qui adhèrent à sa cause.
Oui, parce que la prise de Marrakech, c'est quelque chose d'extrêmement fort, et de se dire partir du sud et réussir à prendre la ville symbole, mais est-ce que ça suffit là à s'opposer aux troupes françaises? Alors là, nous sommes dans un registre militaire cette fois-ci, parce que même s'il y a l'idée qu'avec une certaine protection on peut échapper aux balles et aux canons, on sait bien que dans la réalité c'est différent. La violence de la répression est vraiment sidérante, hein. Et Lyautey est présenté comme le pacificateur du Maroc, c'est aussi manier les armes, ou en tout cas donner les ordres pour que ces soldats écrase toute forme d'opposition.
Exactement. D'ailleurs, tout s'effondrera donc en septembre. Donc, El-Iba entre à Marrakech vers le 18 août et il en ressort le 7 septembre. Entre-temps, donc, le 6 septembre 1912 a eu lieu la bataille de Sidi Bou Othman, où près de 10 000 partisans d'El-Iba affrontent la colonne du colonel Mangin de près de 4 000 hommes. Donc c'est une masse qui s'avance vers la colonne française, qui se fera déchiqueter par les canons et les mitrailleuses. Il y aura près de 2000 morts. À ce moment-là, donc la baraka d'El-Iba tombe à terre et les gens reconnaissent enfin la supériorité militaire et matérielle des Français.
Avec ici l'évocation du colonel Mangin, le futur général Mangin, qui pendant la Première Guerre mondiale se fait remarquer comme étant le tueur de nègres. Pour dire combien ici nous avons cette présence française prête à tout pour maintenir son influence sous couvert de protectorat. Parce que c'est compliqué, ce n'est pas une colonie, ce n'est pas comme l'Algérie, trois départements français. Le Maroc, c'est un protectorat avec le sultan, et d'ailleurs le sultan français, en tout cas celui soutenu par les Français, est obligé de fuir. Il est protégé par la France?
Non, il ne fuit pas. En fait, il est rétabli dans son statut de sultan. Il est respecté par Lyautey. Il s'établit à Rabat. On préfère qu'il quitte Fès pour Rabat, pour la côte en fait. Et donc Lyautey, donc ensuite mène ce qu'on appelait la pacification. Donc il hiérarchise en fait les fronts. Il y a ce qu'on appelle à ses yeux le Maroc utile qu'il faut préserver avant tout. Et il y a des fronts actifs et des fronts passifs. Donc les fronts actifs, c'est pour consolider donc tout ce qui représente le Maroc utile, c'est-à-dire l'arrière-pays de Casablanca où les terres sont riches et productives, le Moyen Atlas qui est le véritable château d'eau pour l'exploitation agricole, et le front passif, ben, ce sont toutes les zones délaissées car inutiles pour la colonisation, comme le sud marocain.
Avec ici l'évocation du Moulay Ahmed Heliba, ce sultan du sud, celui qui est sultan à la place du sultan, comme vous dites. Un épisode qui est assez court, mais qui symboliquement est très fort. Et surtout, nous allons en voir la portée avec vous aujourd'hui, Rachid Agrour, parce que vous êtes l'auteur du mouvement Ibiste, donc de Heliba, un homme qui sait écrire son histoire.
Je vais raconter l'histoire de Moulay Ahmed. Il était l'aguelite de Dieu, le shérif, le majestueux, et il rejetait absolument le Roumi. Ô musulman, par Tiznit proclamé mais trahi par Tiznit. Le jour qu'il en sortit, allant chez les Shtoukas, l'aguelite dit que les Shtoukas viennent à moi, que celui qui est musulman vienne avec moi, qui est Roumi, je le combats. Les Shtoukas lui ont dit « Nous sommes musulmans de tout ce que tu veux, shérif. Nous te ferons la Hédia et au-delà. » L'aguelite leur a dit « Votre argent n'est pas ce qui m'amène ici. Mon père m'a laissé des chameaux et des biens. Retranchez seulement la dîme de vos biens. Frida, droit des caïdes, il n'y en aura plus. »
Olivier Martineau, dans le cours de l'histoire, qui disait, alors qu'il aurait pu chanter, cette histoire d'Heliba, puisqu'il s'agit d'une chanson, Rachid Agrour, on trouve ça dans votre ouvrage, ça fait partie de ces textes qui pouvaient circuler autour de celui qui a été proclamé au moment de la signature du protectorat, en fait, un sultan qui allait pouvoir conduire les gens, qui prend Marrakech, qui est battu par le colonel Mangin, on est en 1912. Donc là, ça se passe en quelques mois, tout ça, mais ça suffit pour que, au même moment, il y ait ce type de production, c'est-à-dire des chansons à sa gloire.
Tout à fait. Alors, juste pour reprendre un terme qui a été utilisé ce poème, poésie chantée, l'aguelide. L'aguelide, en fait, c'est un poème berbère, parce que la région du sud marocain, elle est majoritairement constituée de berbérophones. Donc l'aguelide, en fait, ça veut dire le roi, le sultan, tout simplement. Donc ça a beaucoup marqué les esprits, en effet, parce qu'il s'est érigé donc en défenseur de l'islam, parce que pour beaucoup de gens à ce moment-là, donc se soumettre aux Français, c'est perdre un petit peu sa religion.
Et oui, parce que c'était vraiment ça, hein, le point de vue religieux est très important. Et puis, vous évoquez les berbères. Heliba, lui, il est berbère, non, il est...
Non, lui, c'est ça qui était intéressant d'étudier cette histoire, c'est d'essayer de comprendre comment un nomade, donc arabophone, a-t-il pu prendre la tête de tribus majoritairement sédentaires et berbérophones.
Oui, c'est ça le pari de cette étude. Et à partir du moment où vous décidez, Rachid Agrour, d'étudier ce mouvement Ibiste, vous en donnez les bornes. 1910, nous le comprenons, c'est le moment où meurt son père, où lui, il commence à prendre la succession. 1912, on l'entend, le protectorat, et ça y est, nous avons un sultan. Mais pour lui, ça s'arrête assez rapidement. En réalité, non. Qu'est-ce qui se passe après sa défaite face aux troupes conduites par Mangin?
Alors, suite à cette défaite de Sidi Bou Atman, donc il se réfugie, il passe derrière le Haut Atlas pour se réfugier dans une petite cité qu'on appelle Taroudan, dans le Sousse marocain. Et par la suite, donc de 1912 à 1915, c'est une suite de défaites successives qui le font quitter la plaine. Il passe du statut de sultan respecté, de shérif respecté, à celui de réfugié. Quand il arrive à Kerdous est un tout petit village dans l'anti-Atlas qui est à près de 1200 mètres d'altitude. C'est là qu'il arrive en 1915. Il a vraiment définitivement perdu son aura. Il est un réfugié. Donc il subit l'autorité des notables locaux. pour sa subsistance, il dépend d'eux totalement. Et donc, il est porté à bout de bras par ses lieutenants qui l'ont amené jusqu'à Marrakech.
À côté de ce que nous avons pu entendre, cette poésie chantée, il y a des documents. Au moment où l'historien que vous êtes décide de travailler sur un mouvement qui, et on l'entend bien, est un mouvement d'opposition avec un regard. Et les documents que nous avons d'ailleurs sont bien souvent des documents occidentaux ici parce que nous les puisons dans nos archives. On se pose la question des sources. Est-ce que le mouvement Ibis lui-même a produit suffisamment autre que ces poésies chantées qui sont quand même des hagiographies et qu'il faut le manipuler avec précaution?
Oui, tout à fait. Alors justement, l'intérêt de cet ouvrage, ça a été la confrontation des sources, c'est-à-dire les sources d'un côté, les sources coloniales, les sources militaires, et de l'autre côté, les sources de ce que j'ai appelé le regard intérieur. Donc les sources marocaines. Et en fait, j'ai pu utiliser un ouvrage de langue arabe qu'un ami m'a aidé à traduire, d'un auteur qui s'appelle Mokhtar Soussi. Donc ce Mokhtar Soussi, lui, a interviewé les acteurs de ce mouvement ibiste de l'époque, donc du côté marocain, donc des lieutenants de l'Iba, il les a interviewés. Donc il a pendant plusieurs différents lieutenants. Donc grâce à ça, on a le regard des Marocains sur comment s'est créé ce mouvement, comment est-ce qu'il a été jusqu'à Marrakech, les oppositions internes, les luttes intestines, etc. Donc tout ça m'a permis d'avoir un regard au plus près de la vérité sur ce mouvement.
Qu'est-ce qui crée des divisions à l'intérieur même de ce mouvement ibiste? Question religieuse, question politique, de pouvoir?
Surtout des rivalités politiques, d'ordre politique. Par exemple, quand il arrive à Marrakech, il y a un pacha, il y a un caïd, c'est le caïd à ce moment, c'est le caïd Mtougui, qui est le rival du fameux caïd Glaoui. Donc déjà, il y a ces rivalités de grands caïds à l'intérieur au sein de la troupe. Quand El Iba arrive à Marrakech, donc il est entouré majoritairement de berbères, mais il met en avant tous ceux qui sont venus avec lui de l'Ouest saharien, donc il y a une inimitié, il y a vraiment là à ce moment-là une division entre les Berbères et les Arabes à ce moment-là. Il y a vraiment des rancunes qui naissent à ce moment-là, etc. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui suscitent la rivalité et les conflits internes.
Est-ce que c'est pertinent de parler de rivalité tribale pour le Maroc ?
Oui, on peut parler de rivalité tribale, comme je vous dis, parce qu'en fait, ces tribus sont régies par des notabilités qui se jalousent les uns les autres, en fait. Et une fois que El Iba, par exemple, sera dans son réduit à Kerdous, le village de Kerdous se trouve dans une tribu. Cette tribu, il y a un parti qui le rejette totalement, qui veut le rejeter, qui veut le chasser. Et il y a un parti qui est pour lui. Et il est soutenu par ce parti-là et par d'autres lieutenants d'autres régions de l'Anti-Atlas.
Avec le destin d'un individu qui nous intéresse, El Iba, nous l'entendons, il est, alors pas discrédité, mais enfin il a perdu de son aura, de son pouvoir, il dépend, vous nous l'avez expliqué, des notables, et puis, et c'est toujours surprenant les destins humains, mais c'est simplement la maladie qui l'emporte.
Exactement, tout à fait. Donc il meurt en 1919 d'une maladie. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait une résurgence de l'épidémie de grippe espagnole qui aura atteint le Maroc à ce moment-là. Et donc, il est mort tout simplement en 1919. Et lui succédera son frère, donc Meri Birebo, à la tête de ce mouvement bien, bien faible à ce moment-là.
Le mouvement est bien faible, mais il existe encore. Et maintenant, c'est son frère qui est à la tête de ce mouvement ibiste. Ibiste, donc du nom de El Iba. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire de l'Anti-Atlas au Rif, quand les sultans résistent à la colonisation. Il fallait bien un peu de oud pour une émission consacrée au Maroc. Saïd Chrebi, ici, un enregistrement de 2008. Rachid Agrour, dans l'histoire qui nous intéresse, et celle que vous avez étudiée, hein, le mouvement Ibis est publié aux presses universitaires de Rennes, il ne faudrait pas oublier les autres mouvements qui, en même temps, luttent contre les protectorats, et je le mets au pluriel, évidemment, parce qu'il y a le protectorat français et le protectorat espagnol. Dans le mouvement Ibis, là, vous nous avez beaucoup parlé de l'opposition avec les troupes françaises. Alors, il y y a Lyautey, il y a Mangin, il y en a d'autres, hein, Gourgaud. Mais il y a des combats dans le même temps du côté espagnol, où le protectorat espagnol étant autre que le protectorat français, c'est pas la préoccupation première d'Eliba.
Non, en fait, bien au contraire, les Espagnols ont essayé d'approcher à plusieurs reprises El Iba, qui a accepté à plusieurs reprises leur aide. En 1916, il y a un débarquement espagnol qui se fait à ce qu'on appelait Villa Bens. C'est la Tarfaya d'aujourd'hui. Donc il y a un petit préside, un petit fortin espagnol qui s'érige là-bas. Donc El Iba prend contact avec les Espagnols. Il y a des contacts, il y a un commerce qui se met en place avec un des frères d'El Iba qui reçoit une pension des Espagnols. Les tribus sont mécontentes. El Iba rejette son frère en faisant comprendre que son frère a pris cette décision par lui-même, alors que bien au contraire, El Iba était bien au courant de cette affaire. Il y en a d'autres situations une nouvelle tentative des Espagnols de débarquer sur la côte des Edbarman, sur la côte de ce que deviendra plus tard le territoire de Sidi Ifni, un territoire espagnol. Là aussi, donc El Iba et plus tard son frère aussi Mereberabo désavouera ses frères qui ont pris position pour les Espagnols, alors que bien sûr, et El Iba et Mereberabo étaient en contact direct avec ces mêmes Espagnols.
Et puis, alors, sont-ils en contact avec les autres mouvements de résistance? Parce que le Maroc, face à la colonisation sous forme de protectorat, qu'il s'agisse protectorat français ou protectorat espagnol, s'est levé la tête et se révolté.
Le 21 et le 22 juillet 1921, l'Espagne, la France, tous les pays occidentaux surpris, apprennent que à Anoual, petite ville du Rif, il y a eu une bataille gigantesque dans laquelle les Espagnols ont été battus. Cette première victoire d'Anoual sera suivie par plusieurs victoires aussi importantes aux dépens des Espagnols. Abdelkrim monte à ce moment-là une armée qui, en termes politiques et militaires, des années 1940 et 1950, serait appelée armée populaire. Il y a là d'abord un noyau dur de 2000 à 2500 soldats qui vivent exclusivement de la guerre. Et en plus, chaque famille est obligée de donner un garçon sur deux. C'est donc le 18 janvier 1923 qu'à la suite de toutes ces victoires militaires, Abdelkrim décide de franchir le pas politique et de proclamer la République du Rif. Il dit « Daoula Jamaria Rifia », c'est-à-dire la nation républicaine du Rif. C'est d'abord évidemment une république. Le pouvoir n'appartient pas à un sultan, mais à un chef, en l'occurrence Abdelkrim, élu par la majorité de la population.
En 1984, sur RFI, une émission Grand Moment du Tiers-Monde, et le journaliste Elikia Mukolo s'intéresse à une date précise, le 18 novembre 1923, Abdelkrim, qui proclame la République du Rif. Alors déjà, un peu de géographie, Rachid Agrour, avec le Rif, où nous trouvons-nous ?
Alors, on se trouve au nord du Maroc, totalement au nord du Maroc. C'est un massif donc montagneux qui répond du nom de Rif. Il a échu pour le partage colonial donc à l'Espagne. Il est inoccupé en partie. Et petit à petit, donc les Espagnols essaient de l'occuper petit à petit, morceau par morceau, comme un petit peu ce qui se passe dans le Maroc français. Mais en 1921, donc ils se heurtent à Abdelkrim et à ses troupes, et c'est ce qu'on a appelé du côté espagnol non pas la bataille d'Anoual, mais le désastre d'Anoual. Car il y a eu près de entre 5 et 10 000 morts côté espagnol, entre 1 millier ou 5 000 prisonniers espagnols. Les officiers se suicident de honte dans ce désastre. Donc c'est vraiment un cataclysme pour le pouvoir espagnol à ce moment-là.
Avec un personnage, Abdelkrim, nous avons une idée de son profil. Qui est-il ?
Alors Abdelkrim, c'est un personnage très intéressant. C'est un fils de Cadi. En fait, Abdelkrim, c'est le nom de son père. Lui, il s'appelle Mohand ou Mohamed en arabe. Mais donc c'est Abdelkrim qui a perduré parce que en fait c'était donc Mohand ben Abdelkrim. Donc on a parlé pour faciliter les choses d'Abdelkrim tout simplement. Donc c'est un fils de Cadi. Donc son père était Cadi, c'est-à-dire c'était un juge musulman. Au tout début, son père a très bien compris l'intérêt de l'Espagne. Qu'il pouvait tirer de l'Espagne. Donc il a envoyé ses fils à Melilla. Melilla, c'est un petit préside espagnol au nord du Maroc, où son frère apprend la culture espagnole. Un autre de ses frères est envoyé à Madrid, dans une école d'ingénieurs. Donc c'est vraiment Abdelkrim, et est un personnage beaucoup plus ouvert sur le monde contemporain, sur le monde espagnol. Il voit, au tout début, il voit l'Espagne comme un avantage, une chance pour les Marocains, entrer de plein pied dans la modernité. Il est nommé à son tour Cadi. Il donne des cours d'arabe et de berbère aux officiers espagnols. Il collabore aussi à un petit journal local de Melilla. Donc au tout début, rien ne permettait de voir Abdelkrim en tant que s'ériger en tant qu'ennemi irréductible des Espagnols.
Avec deux profils ici, nous l'avons évoqué, Helibar qui se trouve au sud et puis Abdelkrim au nord, mais des profils complètement différents. C'est-à-dire que autant Helibar, donc Moulay, lié à la famille du prophète, peut devenir sultan, il a la baraka en plus, alors que Abdelkrim, lui, c'est inimaginable qu'il puisse se dire sultan à un moment.
Alors,
ah, si ça pourrait.
Il y a eu un petit basculement à un moment donné, donc quand les Français s'attaquent à une tribu que Abdelkrim revendiquait. Donc il y a une grosse offensive en 1925 sur le Maroc des Français. À un moment donné, Fès est menacé. Et à ce moment-là, donc on dit que Abdelkrim aurait eu l'idée de se proclamer sultan. Mais s'il avait réussi à atteindre Fès, je pense qu'il se serait sans doute proclamé sultan à ce moment-là. Mais bon, l'histoire a fait que ça n'a pas été possible.
Vous nous l'avez bien dit, hein, Helibar meurt en 1919 de la grippe espagnole sans doute, mais son frère prend le flambeau. Et avec ce qui se passe au nord du Maroc, dans le Rif, nous sommes dans les années 1920. Donc Helibar, Abdelkrim, c'est pas exactement contemporain, en tout cas dans les soulèvements. Ils se connaissaient d'ailleurs, ces gens-là, enfin, il y avait des échanges entre eux.
Alors oui, il y a eu des échanges épistolaires. Donc à chaque fois, quand Helibar est entré à Marrakech, plusieurs caïds, grands caïds, ont pris contact avec lui, parce qu'ils le voyaient continuer sa route jusqu'à Fès, même au-delà. Et quand Abdelkrim a le retentissement de la bataille, de la victoire d'Anoual, donc c'est la même chose qui se produit, de nombreux caïds, notamment à ce moment-là, Meri Birebo, prennent contact avec Abdelkrim. Mais ça s'arrêtera, ça restera des échanges épistolaires, ça n'ira pas plus loin que ça.
Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas l'idée de fusionner ces deux résistances, celle du Sud, même si dans les années 1920, elle est quand même un petit peu affaiblie, et celle du Nord, du côté du Rif, cette guerre du Rif avec l'idée de la République du Rif qui se met en place, c'est quelque chose qui est très fort. On voit que vraiment au nord et au sud du Maroc, il y a des oppositions et que dans les années 1920, c'est plutôt au nord que ça se passe. La répression, là aussi, j'imagine, est féroce.
Oui, tout à fait. Donc la répression est féroce. Il y a une coalition qui se met en place franco-espagnole, donc des moyens énormes militaires, l'emploi de gaz chimique, l'emploi de l'aviation, l'emploi de l'artillerie. Donc... Il y a très rapidement, donc Abdelkrim doit se soumettre en 1926. Donc plutôt que de se soumettre aux Espagnols qu'il a combattu et qui leur a infligé ce désastre d'Anoual, il préfère se soumettre aux troupes françaises.
C'est plus organisé, cette résistance dans le nord que dans le sud, parce que, et puis je ne veux pas retenir que l'occultisme, hein, parce que c'est en marge de ce que vous nous expliquiez, qui est beaucoup plus profond. Mais dans le nord, moi j'entends la volonté de mettre en place la République du Rif. Enfin, c'est quelque chose qui permet d'imaginer une résistance plus solide et peut-être avec des résultats plus forts sur une portée longue.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Abdelkrim a su mettre en place en fait une autorité forte, centralisatrice, qui lui a permis de l'organisation d'une armée moderne. Il a près de 200 canons, il a des mitrailleuses, il utilise les tranchées, il utilise les téléphones de campagne pour les communications avec ses troupes. Un contre-exemple justement par rapport à ce qui s'est passé dans le sud, c'est une société donc où El Iba est un statut de réfugié, où la rébellité des notables fait qu'il n'y a pas vraiment un mouvement centralisé. Un exemple, il y a une défaite en 1916 d'un caïd marocain envoyé par le sultan de Moulay Youssef. Et c'est une défaite, donc c'est une victoire des tribus. Et les tribus réussissent à prendre les trois canons qu'avait ce caïd. Au lieu d'utiliser ces canons, par la suite, la rébellité était telle entre les notables qu'ils ont démantelé les canons et qu'ils ont jeté donc les pièces des canons dans les puits pour qu'aucun des notables locaux ne puisse prendre l'ascendant, l'avantage sur les autres notables.
Est-ce qu'on peut imaginer que ces rivalités entre les différents notables aient été un frein à ces différentes résistances ?
Ah oui, complètement. Oui, complètement. À ce niveau-là, c'est indéniable. Donc la société, en tout cas pour ce qui est du Sud, n'a pas réussi à trouver son leader. Elle avait cru le trouver dans El Iba, mais en fait, c'était un leader qui n'était accepté que dans la victoire et non pas dans la défaite. Contrairement à ce qui s'est passé avec Abdelkrim, qui a vraiment su imposer son autorité, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite.
Et c'est ce que vous nous expliquiez avec cette histoire de canon, quoi. La peur que quelqu'un d'autre puisse bénéficier du canon préfère les faire disparaître plutôt que d'unifier cette résistance-là. La résistance du Sud, il y a le moment... Très vite, en fait, 1912, ça c'est le vrai soulèvement, mais on sent qu'à la fin des années 1910, ça s'est déjà affaibli. 1919, meurt El Iba, son frère prend la relève. Après, qu'en est-il du mouvement ibiste dans le sud du Maroc durant les années 1920, au moment d'ailleurs où, tout au nord, dans le Rif, il y a une résistance féroce?
Alors c'est un mouvement qui vivote. En fait, il y a une paix des braves qui a été établie en fait entre la montagne. Il y a une frontière en fait entre le Maroc des Français et le Maroc ibiste. C'est la frontière, c'est la plaine. Il ne faut pas que le mouvement ibiste descende en plaine. En échange, on autorise les tribus à commercer avec la plaine, à commercer jusqu'à Essaouira. Il ne faut juste pas envoyer des troupes, des hommes armés dans les plaines pacifiées.
Ouais, parce que c'est ça, hein, c'est l'idée que même le sultan, d'ailleurs, le sultan français, pour le dire simplement, ne peut pas se rendre dans la région.
Alors, il se rendra dans la région, il se rendra dans les années 20 jusqu'à Tiznit. Le Moulay Youssef se rendra à Tiznit, dans toutes ces zones entre guillemets pacifiées. Donc les prières sont faites au nom de Moulay Youssef. Dans les zones montagneuses, dans l'anti-atlas, la prière est toujours faite au nom des fils de Malénin, soit El Iba, soit Meri Berabou pour la suite.
Vous dites toujours faite, c'est aujourd'hui encore ?
Non.
Ah, à l'époque. On me rassurait, hein. Nous sommes toujours dans les années 1920. 1930, les années 1930, 1934, c'est la pacification.
Rabat, 6 mars. Le mouvement de réduction des dissidents qui, depuis quelques semaines, s'était déclenché au Maroc, se poursuit dans le calme. Il serait faux d'ailleurs de croire que l'on se retrouve en présence d'une insurrection caractérisée. Il s'agirait plutôt du soulèvement de quelques tribus pillardes et perpétuellement insoumises. Le marabout des Kerdou, Mereb Birebbo, a fait envoyer un émissaire au général Katrou. Ce dernier venait apporter les présents d'usage et demander quelles conditions seraient imposées à Mereb Birebbo dans le cas où il accepterait de se soumettre à l'autorité du sultan.
Olivier Martineau qui lisait le journal Paris Soir en 1934. Rachida Grour, 1934, ce milieu des années 1930, pour les résistances marocaines, ça marque un changement. Est-ce qu'on peut dire que, alors là, je me mets dans le sud, avec le mouvement mené par El Iba dans un premier temps et par son frère ensuite, on a quelque chose qui prend fin?
Oui, tout à fait. Alors, 1934, c'est donc face à, pour du côté français, c'est face à la montée de l'Allemagne nazie, on cherche à rapatrier le maximum de troupes en Europe. Donc il faut liquider définitivement toutes les zones de dissidence. Donc en 1934, c'est deux tiers des troupes au Maroc qui sont mobilisées pour réduire l'anti-Atlas. Tout ce qui est aviation, tout ce qui est marine est mobilisé pour cet assaut final qui, en deux semaines, réduira donc à néant donc toute résistance. Mais Ribi Rebo aussi, à l'instar de Abdelkrim dans le Nord, plutôt que de se soumettre aux Français, préfère se soumettre aux troupes espagnoles dans le sud, dans le Sahara espagnol.
D'accord. Pourquoi ? Il y a une explication ?
Tout simplement parce qu'en fait, Moulay Youssef est dit le sultan des Français. Et donc, comme il s'opposait à ce dit sultan, il préfère se soumettre aux Espagnols.
Et que se passe-t-il dans le Nord au même moment ? Dans le Rif ? Est-ce que pour Abdelkrim, là aussi, la volonté de mettre fin à toute forme de résistance pour avoir les mains libres, parce que on se prépare en Europe à une éventuelle guerre, fait que le mouvement dans le Rif, lui aussi...
Non, en fait, le mouvement dans le Rif a été réduit en 1926.
Ah, dès 1926, c'est terminé.
Dès 1926, il a été réduit. Donc, comme je vous dis, Abdelkrim s'est rendu aux troupes françaises. Il est exilé à La Réunion, où il habitera pendant près d'une vingtaine d'années, avant d'obtenir de la France le droit de s'établir dans le sud de la France. Sur le chemin, il fait escale en Égypte. Il fuit. Il se réfugie au Caire, où il résidera jusqu'à sa mort en 1963.
Et il meurt au Caire en 1963. Et au milieu de tout ce long exil, il y a un passage à Paris.
Abdelkrim a repris sa parole. À l'escale de Port Saïd, il a cherché asile à la cour du roi d'Égypte, Farouk, qui semble, depuis plusieurs mois, tenter de faire autour de lui et à son profit l'union du monde arabe.
Nous avions ici un extrait des actualités françaises en 1947 avec, pour le pouvoir colonial, la crainte des leaders. Alors, on en a évoqué certains pour le Maroc, Rachida Grosz. On peut quand même dire que dans le même temps, il y a d'autres mouvements contre la colonisation qui se développent. Ce que nous évoquons là, que ce soit le mouvement Ibis, que ce soit ce qui est conduit par Abdelkrim, ce sont des mouvements, mais qui s'inscrivent dans une contestation plus vaste de la colonisation.
Oui, tout à fait. Donc, suite après à ces contestations, à ces résistances armées, succédera des résistances plus politiques d'une jeunesse marocaine instruite qui mettra en place ce qu'on appellera au Maroc le mouvement nationaliste qui aboutira à l'indépendance du Maroc en 1956.
Qu'est-ce qui reste dans les mémoires aujourd'hui de ces mouvements ? Alors, pour le mouvement ibiste que vous avez particulièrement étudié, Rachida Grosz, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent avec une référence à Liba ? Est-ce que c'est une figure encore ?
Alors, le roman national marocain est très jaloux. On va dire qu'il y a dans le roman national marocain une héroïsation de l'image du sultan qui a effacé toutes les autres images de résistance au colonialisme. Pour ce qui est du Maroc, en fait, le héros de l'indépendance, c'est le sultan Mohamed V, le père d'Hassan II. de l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Donc c'est Mohamed V. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, c'est que le Maroc obtient son indépendance le 2 mars 1956. Mais au Maroc, la fête de l'indépendance a lieu chaque année le 18 novembre, qui correspond à l'intronisation de Mohamed V, le 18 novembre.
Ouais, parce que Mohamed V, c'est le sultan qui devient roi par la suite. Mais c'est cette réussite, en fait, d'une colonisation où le sultan demeure, où le sultan reste. Mais cet autre sultan, Ali Ba, ce sultan qui voulait venir sultan à la place du sultan, lui, il est effacé du roman national ou... Non, il demeure...
Totalement.
Il est effacé.
Totalement effacé. De même pour ce qui est de Abdelkrim, il est totalement lui aussi effacé, comme parce que je vous dis. Donc, le pouvoir marocain affirme la centralité, la suprématie de l'autorité monarchique sur tout autre personnage dans l'histoire.
Ali Ba vient du sud, nous sommes pas loin de la Mauritanie, il y a la question complexe du Sahara occidental. Sahara occidental, donc c'est l'ancien territoire, l'ancien protectorat espagnol qui réclame son indépendance, considéré aujourd'hui par l'ONU encore comme un territoire colonisé par le Maroc, un des derniers territoires colonisés au monde. Est-ce que le mouvement ibiste, venant du Sud, avec une identité du Sud, peut s'inscrire dans cette histoire du Sahara occidental.
Oui, tout à fait, totalement. Mel Henin, par exemple, a reçu un décret, un daïr royal, le nommant Caïd en 1879, le nommant Caïd sur les tribus du Sousse et d'une partie du Sahara en 1879. C'est pour ça qu'aujourd'hui le tombeau de Mael Henin qui est à Tiznit, régulièrement il y a des moussems, il y a des gens qui le visitent régulièrement. Il y a même des membres officiels du gouvernement, pas du gouvernement mais en tout cas des autorités locales qui le visitent chaque année sans aucun souci. Par contre, le tombeau d'El Iba à Kerdous, lui, par contre, on a un peu de mal à organiser des moussems officiels. Maintenant, parce qu'il s'est érigé contre l'autorité de la dynastie alaouite. Alors maintenant, on développe un nouveau discours dans la région qui dit que, en fait, El Iba a proclamé le djihad pour chasser les Français en collaborant, en connexion avec la dynastie alaouite, en connexion avec Moulay Hafid, en connexion avec Moulay Youssef. C'est le nouveau discours qui se met en place.
Oui, parce que, bien sûr, chaque pouvoir construit son discours, et après, c'est au travail des historiens, des historiennes, de déconstruire tout cela, et d'essayer de le comprendre, et la réalité aussi, les réalités de domination, on vient de l'évoquer, les dominations coloniales qui durent, et parfois des répressions féroces dans le mouvement ibiste. On a cette histoire-là qui nous conduit vers le Sud, avec ces questions de mémoire. Rachid Agrour, je vous entends aujourd'hui nous parler de ces phénomènes dynastiques, et si dans le cours de l'histoire, on a voulu mettre en avant l'histoire du Maroc par ses sultans, c'est aussi parce que c'est cette manière de raconter l'histoire qui s'est imposée. Une histoire très dynastique où le but final dans une histoire qu'on pourrait qualifier d'officielle, c'est de montrer que la dynastie alaouite était destinée, en effaçant tout ce qui pourrait gêner, à être aujourd'hui sur le trône au Maroc.
Exactement, tout à fait. Donc je pense que c'est dans toutes les monarchies de par le monde, c'est toujours la même politique qui est mise en place, tout à fait.
Et cette bonne guerre, on le comprend bien, mais comme je disais, c'est au boulot des spécialistes de pouvoir déconstruire tout ça pour éclairer cette histoire. On vient d'évoquer ce qui se passait dans le Sud, juste dans le Nord, pour la mémoire d'Abdelkrim dans le Nord. Est-ce que Abdelkrim, lui aussi, a été effacé de cette histoire-là?
Alors, c'est justement, donc Abdelkrim, justement, c'est seulement dans la région du Rif où il y a un petit mouvement autonomiste, régionaliste, on va dire, qui met en avant l'image d'Abdelkrim. Mais c'est dans tout le Maroc, c'est seulement dans cette région-là qu'Abdelkrim est encore commémoré.
Ce sont des figures complexes de l'histoire marocaine, parce que à la fois elles ont su résister au protectorat, et il y a eu des morts, mais dans le même temps, par leur opposition au sultan qui a dû accepter le protectorat, il n'est pas possible de vraiment les mettre en avant. Donc on sent bien ici qu'on va retrouver dans la mémoire ces divisions anciennes et ces divisions du passé.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est d'Abdelkrim, en 1956, le Maroc est indépendant. Le sultan Mohamed V ira jusqu'à se rendre au Caire pour rencontrer Abdelkrim, en l'invitant à retourner au Maroc. Puisque le Maroc devrait être indépendant, il n'avait plus sa place en Égypte aux yeux du sultan. Mais Abdelkrim a refusé en arguant du fait qu'il ne retournerait au Maroc qu'une fois que tout le Maghreb serait indépendant.
Et voilà, parce que cette histoire de l'indépendance, c'est ce qui va nous faire réfléchir pour un prochain épisode du cours de l'histoire. Merci vivement, Rachid Agrour, d'être venu dans le cours de l'histoire. Le mouvement ibiste, djihad et résistance dans le sud marocain, 1910-1934, s'est publié aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup à vous. Dans cette histoire des dynasties, nous avons traversé le Maroc médiéval, des dynasties nombreuses et des dynasties dont la mémoire a été récupérée pour écrire cette histoire officielle. Nous avons vu la place du sultan au temps des protectorats. Avec vous, Rachid Agrour, nous avons réfléchi aux sultans et contre-sultans, aux anti-sultans qui résistent à la colonisation. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, Mohamed V, le sultan devenu roi du Maroc.
Plusieurs milliers de personnes se sont massées place du Puy de l'Ermite et dans les rues adjacentes pour assister à l'arrivée à la mosquée de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, sultan du Maroc. Ce tranquille quartier d'allure quelque peu provinciale s'est mis en fête, et guirlandes et drapeaux avivent de leurs tons éclatants les couleurs neutres des murs parisiens. absurdité derrière ses lunettes cerclées d'or, le profond et vif regard du souverain semble retrouver avec émotion un décor qu'il n'avait pas pu contempler depuis juillet 1939, date de son dernier voyage à Paris.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel, à la technique Marie-Claire Oumamadi, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Solène Roy, Maëlle Vincent Randonnier et Mayou Nguizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans les archives, à Olivier Martineau pour les lectures. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.